Cap Sport.
Cap Sport. Cap Sport.
Cap Sport.
Cap Sport.
Il est venu le temps des fêtes, celle de fin d'année, mais aussi celle du hockey sur glace. La Coupe Spengler, c'est la fête annuelle de ce sport. Dans les Grisons, ça va démarrer le 26 décembre. Et à cette occasion, on vous propose de partir à la découverte d'une association qui milite pour le fair play. Et la fête dans les patinoires, l'association suisse des fans clubs de hockey sur glace. La fin d'année, c'est aussi toute une série de cadeaux. Jérémy Pignard nous en a concocté un. Il a rencontré le réalisateur Emir Kusturica pour revenir sur le portrait qu'il a réalisé de l'une des plus grandes stars du football, Diego Armando Maradona. Et puis qui dit fin d'année dit aussi rétrospective, retour sur les temps forts du sport de l'arc jurassien dans ce dernier numéro de l'année.
Cap Sport, Mathieu Schaffner.
Bienvenue pour une dernière émission avant les fêtes. On va prendre la direction des patinoires pour entamer ce dernier numéro. Les patinoires de Suisse qui résonnent bien souvent au chant des fans clubs. Ce qui est moins connu, c'est qu'il existe une association des fans clubs de hockey sur glace dans notre pays. Elle est présidée par le jurassien Pascal Guenat et ça ne s'invente pas, on va le retrouver en direct d'une patinoire, bien sûr, celle de Porrentruy. Bonsoir Pascal Guenat.
Oui, bonsoir à vous.
Président donc de l'association suisse des fans clubs de hockey sur glace, ceci depuis 18 ans désormais. Alors c'est une association qui a quelle taille aujourd'hui ?
Ouais, elle a une taille, une petite taille, mais on essaye de faire le maximum au sein des fans clubs. Ceci pour entretenir, promouvoir les relations entre les différents fans clubs de hockey sur glace, motiver un comportement correct et favoriser l'image du hockey club. Du hockey sur glace, pardon, dans le public.
Vous dites une petite taille, ça représente une trentaine de fans clubs, une centaine de fans clubs ?
52 fans clubs au niveau suisse, entre la National League, la Swiss League, la MySport League, la Premier League et Deuxième League. Et un fans club d'Allemagne.
Et puis on voit clairement un écart hein, entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Vous avez que 4 fans clubs romands dans vos rangs, Ajoie, Bienne, Lausanne et Sierre. Comment vous expliquez ce grand écart ?
N'oubliez pas Fribourg également.
5 alors, voilà.
5 fans clubs. Alors le grand écart, il est là parce que nous avons des fans clubs comme Chaux-de-Fonds. Une année sur deux, ils sont présents. Et pourquoi ils n'arrivent pas à trouver des nouveaux membres, à tourner efficacement. On le voit au niveau aussi du public dans les patinoires. Même que vous êtes en tête du championnat de Swiss League, vous n'arrivez pas à avoir des fans clubs comme vous voudriez autant pour remplir les gradins.
Mais ça signifie que, hormis la Chaux-de-Fonds, tous les autres clubs de Première Ligue, de Deuxième Ligue, de National League, de Swiss League, ils sont représentés dans votre association ?
Oui, ils sont représentés. Comme je l'ai dit, il y a Lausanne, comme vous l'avez dit avant, il y a Lausanne, il y a Fribourg, il y a Sierre, il y a Ajoie, dont je représente le club au sein du comité, mais également des clubs comme Villars, comme Fleurier, qui militent en deuxième ligue.
Vous sentez des différences de mentalité entre la Suisse romande et la Suisse allemande au niveau de cette association ?
Oui, les Suisses allemands, ils sont beaucoup là parce que nous organisons chaque année, les championnats suisses de hockey sur glace. Et eux, leur but, c'est de venir pour être champion suisse des fans clubs de hockey sur glace.
Et les romans ?
Les romans, ils viennent, c'est plus participation et fiesta.
La fiesta côté roman, la victoire côté alémanique. Mais j'imagine que de tous les côtés, la passion du hockey sur glace, elle est pareille. Il n'y a pas de différence.
Non, elle est pareille. Par contre, le gros problème qu'on rencontre, c'est qu'un fans club est dissous parce qu'il n'y a plus assez de membres. Et maintenant, tous les jeunes peuvent participer à beaucoup de choses. On regarde ici à Ajoie. Moi, je suis le club depuis 1975. Avant, il n'y avait que le hockey, il y avait des clubs de foot, la fanfare. Maintenant, en 2 heures, vous allez dans toute la Suisse sans problème.
Et donc, on s'implique un peu moins à bien vous comprendre au sein d'un fans club aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années en arrière.
Ah oui, ça c'est clair et net. Mais il n'y a pas que les fans clubs, vous regardez toutes les sociétés de villages, de cantons, ça baisse.
Du coup, est-ce que votre association, l'association suisse des fans clubs de hockey sur glace, elle met sur pied des actions pour essayer d'attirer de nouveaux membres, essayer de soutenir ces fans clubs pour attirer de nouvelles recrues ?
Oui, alors chaque année, pendant la pause de février, on a un workshop qui est organisé par un fans club avec un thème. Souvent, c'est le hooliganisme, les ultras, l'arbitrage. Ensuite, nous avons les championnats suisses de hockey sur glace en avril. Et au mois de mai, nous avons chaque année notre assemblée générale.
Votre association, elle regroupe, on l'a dit, des fans clubs de National League jusqu'à la deuxième ligue, des fans clubs de différentes tailles. Alors, est-ce qu'on parle vraiment le même langage quand on est dans un groupe de supporters du CP Berne, par exemple, 15 000 membres environ, ou bien quand on est dans un groupe de fans d'Ajoie, de Sierre ou de Villars?
C'est la même chose, c'est exactement la même mentalité. On a les mêmes soucis de chaque côté. C'est les problèmes qu'on rencontre quand on va en extérieur. Les insultes, les bagarres, les supporters s'allument. Nous, notre but, c'est de se faire reconnaître, faire connaître les supporters qui se reconnaissent dans les patinoires, qui puissent participer à une fête. C'est notre grand but.
Un fans club de niveau inférieur, il sera plus réceptif à vos consignes de fair play, par exemple? Pas forcément?
Pas forcément. Les clubs de Liga également. Maintenant, avec les sécurités pour entrer dans une patinoire, elles ont été nettement amélioré. Moi, ce que je reproche beaucoup, c'est que vous allez à Port-en-Truy, vous avez des supporters de Langenthal, d'Olten, de Viège. Ils sont dans une cage quasiment. Et il y a 10 ans en arrière, vous pouvez y être l'un à côté de l'autre sans aucun problème.
On va quand même signaler que ce n'est pas qu'à Port-en-Truy que ça se passe ainsi.
Non, c'est tout partout. Tout partout. Lausanne est montée en Liga. Ils ont réduit leur zone de supporters extérieurs à 100 places.
Alors, pour rejoindre votre association, il faut signer une charte de fair play. C'est le cœur de votre association, cette promotion du fair play dans et autour des patinoires. Concrètement, comment vous y prenez pour véhiculer ce message, pour clairement le faire entendre aujourd'hui?
Alors, pour adhérer à notre association, vous devez être reconnu par le club que vous les représentez. C'est la première chose. Et au moment où le club signe, comme quoi vous êtes bien supporter du club concerné, nous, on arrive avec une charte du fair play et le 90% signe automatiquement.
Et comment on véhicule ce message-là, finalement?
Il n'est pas si difficile que ça. Le hockey est une fête, comme tout sport. Et les gens viennent à la patinoire, c'est pas pour se triquer, en ayant des grands mots. Hein. C'est pour participer à une fête, voir son équipe qui gagne. Des fois, elle perd. Elle perd des années plus souvent que d'autres. On doit suivre le club.
Je vous provoque un petit peu, Pascal Guenat, mais qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que votre association, elle est vraiment utile au niveau national?
Elle est utile, comme je vous ai dit, entretenir et promouvoir les relations entre les différents fans clubs de hockey sur glace. Ça, c'est notre priorité.
Donc vous sentez qu'il y a moins de tensions entre les fans clubs qui sont membres de votre association grâce à ces rencontres annuelles?
Ah oui, alors nettement. Vous allez au tournoi de hockey, c'est pas parce que Davos aura un fans club qui joue contre Arosa ou Coire qui peuvent pas soir dans les patinoires, mais par contre, c'est une fête. C'est une fête. On est là pour participer à un tournoi et puis on fait la fête ensemble.
La fête dans les patinoires, elle est parfois un peu gâchée par les quolibets qu'on peut adresser aux arbitres. Les arbitres, ils ont aussi un rôle à jouer dans votre association. Vous vous en approchez, vous essayez de les intégrer aussi?
Oui, alors c'est pour ça qu'on organise chaque année un workshop et on fait participer des arbitres. On fait ça pendant une pause de Ligue nationale et on peut avoir des arbitres comme Stéphane Eichmann, des juges de ligne, Prochain, Rebeté, qui participent à nos séances et qui expliquent leur travail et surtout le règlement, pourquoi en ayant des images, des vidéos, pourquoi ça a été sifflé faute, pourquoi il y a pénalité, pourquoi il y a hors-jeu, pourquoi il y a... Ça explique tout.
Vous voyez clairement des effets après coup?
Oui, ça c'est clair. On voit différemment tout de suite il y a moins de colliquets, de sifflets vis-à-vis de l'arbitrage.
Donc finalement, à bien vous comprendre, on instruit le fans et il comprend un peu mieux ce qui se passe sur la glace.
Oui, c'est notre rôle. Les clubs ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres choses, d'autres soucis à penser. Puis nous, on participe à ça.
Eh bien, Pascal Guenat, président de l'association suisse des fans clubs de hockey sur glace, merci d'avoir pris le temps d'être en direct avec nous dans Cap Sport, de nous avoir expliqué ce rôle qu'on peut quand même qualifier d'essentiel au sein du paysage du hockey sur glace en Suisse. On souhaite tout le meilleur à votre association dans son combat pour davantage de fair play dans et autour des patinoires. Très belle soirée à vous et puis un bon match.
Oui, merci beaucoup à vous et puis une bonne fête à tout le monde. Puis merci d'avoir pensé à notre association.
Jusqu'à 19h, Cap Sport.
Chose promise, chose due, le voici, le cadeau de Jérémy Pignard. Un cadeau pour les amoureux de football, mais pas seulement. Notre journaliste a rencontré le réalisateur serbe Emir Kusturica la semaine dernière dans la région. Un réalisateur qui a peint, il y a tout juste 10 ans, le portrait d'un certain Diego Armando Maradona. L'ex-gloire du football argentin entraîne encore aujourd'hui en deuxième division mexicaine, mais se fait plus remarquer par ses phrases qui sortent hors du terrain. Jérémy Pignard est revenu sur ce documentaire Maradona par Kusturica avec le cinéaste serbe.
C'était il y a 10 ans, Maradona sur grand écran, mais surtout Maradona dans son intimité. L'avoir approché d'aussi près était déjà un exploit, tant Diego était encore déifié en Argentine. Maradona par Kusturica s'était montré cet homme complexe aux multiples visages, une icône éternelle pour le réalisateur serbe.
Le monde s'est beaucoup, beaucoup changé, mais il y a qualité de football qui était joué par Maradona, qui n'était pas changé. Je pense qu'il était toujours le meilleur joueur du monde. Et je pense que le documentaire que j'ai fait, c'est un vrai profil de mec qui était joué football et pensé politiquement.
Car dans un bidonville d'une banlieue de Buenos Aires, Maradona est né révolutionnaire pour Emir Kusturica. Il sera notamment proche de Fidel Castro et de Cuba. Le grand public connaissait moins cette idole proche du peuple, celui qui portait des t-shirts Stop Bush devant les caméras en opposition à la politique américaine de George Bush père. Celui qui lâche devant une foule de micros, les politiciens sont riches mais le peuple n'a rien. Par cet homme-là, Emir Kusturica est encore séduit, peu importe ses récentes frasques lors de la Coupe du Monde.
Diego Armadona, c'est une personne, comment on s'appelle en français, controversial.
Controversé.
Controversé, mais c'est normal. C'est le mec qui nous aidait beaucoup, beaucoup. J'étais très excitant chaque fois que je voyais Diego jouer le football. Mais enfin, aussi, je suis d'accord avec Diego quand la figure politique. Il avait pensé beaucoup comme moi. Quand j'ai pensé à propos de la relation d'Amérique du Nord, d'Argentine et Amérique du Sud.
Maradona par Kusturica n'occultait pas non plus les déboires du Pibe de Oro avec la drogue. Devant les caméras du réalisateur serbe, le footballeur argentin aux chevauchés impossibles dira « Tu imagines le joueur que j'aurais été si je n'avais pas pris de la coke ?» Oui Diego, on l'imagine, mais sans ce côté obscur, sans cette insolence derrière ton visage juvénile, sans cette roublardise qui fait marquer un but de la main, sans ce génie qui ridiculise quelques minutes plus tard toute une équipe anglaise, tu n'aurais pas été Maradona.
Aujourd'hui, il n'y en a plus de joueurs comme lui?
Je ne pense pas. Il n'y a pas personne comme ça. C'est le monde beaucoup changé.
Aujourd'hui, les joueurs se protègent, manient la langue de bois bien mieux que le ballon, cachent souvent leurs opinions. Certains mènent quand même au grand jour une lutte politique, comme quelques cadres catalans du Barça. Mais rares sont ceux qui se sont montrés aussi authentiques que Maradona, et aucun n'a atteint son aura.
Et le dernier film d'Emir Kusturica, il n'évoque pas un footballeur, mais un homme politique, Pepe Mujica, un film sur le président des pauvres, également proche du peuple.
Cap Sport, jusqu'à 19h.
Il est l'heure de se plonger dans vos souvenirs de l'année 2018. Touche à sa fin, Cap Sport vous propose ce soir de revenir sur 5 moments phares du sport de l'arc jurassien, des titres, des émotions, des frissons. Les athlètes de la région nous ont fait vibrer. Et on vous propose de s'arrêter sur les 5 instants les plus marquants de l'année, ceci dans un ordre chronologique. Premier arrêt, le 22 mars. Ce soir-là, le HC Bienne se défait de Davos 5-2 dans les Grisons. Il remporte son quart de finale des playoffs. play-off 4 à 2, mais surtout, le HCB se qualifie pour les demi-finales. C'est une première depuis 28 ans dans l'histoire du club. Et forcément, ça a été apprécié à sa juste valeur dans le vestiaire célandais, le gardien du HCBN, Jonas Hiller.
C'est très cool, je crois. Si quelqu'un m'avait dit commencement de saison, je dis oui tout de suite. Mais en même temps, après la qualification, troisième place, je pense que nous avons mis un peu de pression nous-mêmes parce qu'on a montré qu'on peut gagner contre tout le monde. On voulait vraiment le montrer aussi dans le play-off qu'on peut gagner premier rang. Et puis maintenant, on a fait ça. Et puis en même temps, je crois on est content avec ça. Mais en même temps, je crois que personne ne serait content si demi-finale, ça serait la fin. C'est vraiment déjà un peu le focus sur le prochain rang.
Oui, bien qui n'a dans la foulée pas pu passer l'épaule face à Lugano. Défaite 4 à 2 en demi-finale, fin de saison le 7 avril, avec forcément un goût de déception chez le directeur technique du HCB, Martin Steinegger.
Ça fait quand même mal qu'on n'a pas réussi notre rêve, de continuer notre rêve. Là, et c'est des opportunités qui ne reviennent jamais. Et puis ça, c'est important aussi pour les joueurs qui remarquent ça, que l'opportunité là, il faut la prendre parce qu'il n'y a pas l'année prochaine ou dans deux ans peut-être. Ça ne va pas. C'est vraiment ça qu'on doit apprendre maintenant aussi, que quand l'opportunité est là, il faut la prendre et puis pas laisser aller après.
Le mois d'avril, c'est un mois beaucoup plus festif dans les rangs de Neuchâtel-Xamax FCS. Le club rouge et noir fête son retour en Super League. La promotion est acquise le 22 avril, sur le coup des 18h. Schaffhouse est alors battu par Rapperswil. Xamax ne peut plus être rejoint en tête du classement. Le titre est fêté dans le canapé. Le capitaine neuchâtelois, Laurent Walter.
C'est tout autre chose que des sacres vécus à la dernière seconde d'une dernière journée de championnat. Évidemment, là, on a senti la puissance de l'équipe, la force de l'équipe depuis le début de la saison. On a senti qu'on pouvait atteindre l'objectif, qu'on avait les capacités. Et puis, on a senti gentiment venir ce titre, j'ai envie de dire. Donc, il a une saveur différente, peut-être pas d'une émotion extraordinaire, mais plutôt une plénitude, une espèce de fierté de tout un groupe qui a su relever le défi, qui a su passer les obstacles les uns après les autres et puis montrer qu'au final, c'est pas que dans les confrontations directes qu'on a été les plus forts.
Xamax aura eu le temps de fêter ce retour dans l'élite du football suisse. Un mois de festivités ou presque. Le trophée de champion est remis le 21 mai à la Maladière après la dernière victoire de la saison, 6 à 3 face à Ville. Le milieu de terrain xamaxien, Pietro Di Nardo.
C'est pour toute la ville, pour tout le peuple neuchâtelois qui attendait ça depuis 6 ans, qui ne méritait pas la faillite il y a 6 ans. Ben maintenant, on est là et puis on peut fêter avec eux.
On sent vraiment que c'est une page qui se tourne, hein, puis une renaissance, la renaissance du Phénix.
Oui, c'est la renaissance, mais la renaissance, elle est partie il y a 6 ans. Faut pas oublier. Faut pas oublier les joueurs qui étaient là il y a 6 ans, qui ont marqué des goals, qui ont fait monter l'équipe en deuxième ligue inter, en première ligue classique. Parce que sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui, on pourrait pas faire la fête. Il faut remercier tous les joueurs, je ne sais pas combien ont fait partie pendant ces 6 ans, mais ils ont tous été importants à un moment donné. Merci à tout le monde.
Avril a décidément été un mois bien chargé pour le sport de l'arc jurassien, les play-offs du HCBN, la promotion de Xamax, mais aussi le tour de Romandie dans la région. Un passage dans le Jura bernois, une arrivée et un départ d'étape à Delémont. Il a traversé d'une partie du canton de Neuchâtel. La région était à l'honneur sur la boucle romande. Le public s'est rendu en masse au bord des routes pour applaudir les cyclistes et notamment le champion de Suisse, Sylvain Dillier.
C'était magnifique, j'aimais beaucoup de rouler devant le public, il y avait beaucoup d'encouragements et ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tous les encouragements à tout le monde.
Le patron du Tour de Romandie se montrait aussi ravi de ce passage dans la région, Richard Chassot.
On n'a absolument aucun regret de venir dans cette région, bien au contraire, on a beaucoup de plaisir à y venir. C'est souvent d'ailleurs un tout petit peu pour nous le manque de ville pour nous accueillir en fait, parce qu'il y a Porrentruy, il y a Delémont, on a fait à Seine-le-Léger, on a fait à Moutiers, mais finalement il n'y en a pas beaucoup et on aimerait bien venir plus souvent même.
Le Tour de Romandie qui va s'offrir une longue présence en terre neuchâteloise dans quelques mois, le prologue à Neuchâtel, une étape Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, puis un départ du Locle, on en salive déjà. On reste sur un vélo pour la suite de cette rétrospective, mais on passe de la route au VTT, direction Les Grisons et Lenzerheide plus exactement, c'est là qu'Alexandre Balmer a donné des coups de pédale en or. Deux titres de champion du monde pour le cycliste chaudefonnier les 5 et 6 septembre. Tout d'abord à l'occasion du relais mixte, puis le lendemain chez les juniors, Alexandre Balmer.
Je suis parti, j'ai dit oh là là, c'est quoi ces jambes que j'ai. Puis après ça allait, puis j'ai vraiment assuré le coup, pas faire une chute, pas de crevaison, parce que si on fait une chute ou une crevaison, après on sort de la course, ben là, c'est vraiment magique. Puis je pense que j'ai rendu la course vraiment palpitante parce que, en plus pour le spectacle, je suis venu dans le dernier tour, personne ne savait c'est qui allait encore gagner. Même moi, après j'étais content de moi. Dans le dernier tour, j'ai souris un peu parce que j'ai dit, yes, c'est bon, je l'ai fait. J'ai le groupe de tête. Et puis ouais, non, c'est magnifique.
Magnifique, tout comme le premier titre de l'histoire du NUC, le club de volleyball neuchâtelois a pleinement profité du départ de l'ogre Volero Zurich du championnat de Suisse. Les filles de la Riveraine ont soulevé leur tout premier trophée, c'était le 7 octobre à l'occasion de la Supercoupe de Suisse. Victoire face à Eschpfeffingen 3-1 pour combler la présidente Jo Gutknecht.
C'est notre premier titre national avec la première équipe, je suis vraiment très très heureuse, c'est beaucoup d'émotions. Je suis très contente de la performance qu'on a donnée aujourd'hui. Et on a vu aussi que notre équipe est vraiment complète. On joue avec 3 non-titulaires pour gagner ce match. Et c'est extraordinaire. Il y avait un titre à prendre aujourd'hui sur un seul match. On l'a fait et c'est merveilleux.
Merveilleux, comme les performances retracées donc dans cette rétrospective. 2008 a aussi été marqué par de grands départs dont la région ne pouvait pas s'arrêter sur les points forts de l'année, sans citer 3 personnages du sport de l'arc jurassien qui nous ont malheureusement quittés. Des personnes qui ont tant donné pour leur club, pour leurs athlètes, pour leur sport. Il y a eu tout d'abord Gilbert Facchinetti, l'emblématique président de Neuchâtel-Xamax. Il s'est éteint début juillet à l'âge de 82 ans, laissant une image radieuse de lui, l'un de ses anciens entraîneurs, Gilbert Gress.
Gilbert Facchinetti, c'est Neuchâtel-Xamax. Quand je me déplace des fois à l'étranger, en France ou en Allemagne par exemple, on me parle d'abord de Xamax, et dès qu'on parle de Xamax, on parle de Facchinetti, et après seulement on me cite Neuchâtel, quoi. Voilà, dans la hiérarchie, quoi.
Qu'est-ce qui faisait, selon vous, sa popularité qui allait bien au-delà des frontières cantonales, nationales et sportives?
Mais sa simplicité, quoi. C'était le Gilbert, quoi. Vous savez, la seule personne qui le vous voyait et qui le vous voyait, c'était moi. Toutes les autres personnes, soit dans son entreprise ou au club, tout le monde tutoyait Gilbert, quoi. Et Gilbert avait un cœur énorme, quoi. Énorme, énorme.
Hommage aussi à Charlie Corba, décédé en septembre à l'âge de 88 ans, fondateur et ancien président du HC Ajoie. Il aura marqué l'histoire de son club, le président actuel du HCA, Patrick Awert.
C'est sa capacité d'entrepreneur de se dire dans les années 70, d'un petit club de Vandelincourt, je vais en faire un club de région. C'était quelque chose de très compliqué à l'époque, donc il avait une vision assez industrielle des choses, construire une patinoire, à l'époque la 8e de Suisse, qui était quand même un outil de travail assez intéressant, et puis qui a eu le succès qu'on connaît, donc il laissera pour nous l'image d'abord de quelqu'un qui adorait le hockey, le papa du HC Ajoie, un homme aimable, sympa, qui donne ses petits coups de gueule de temps en temps, mais qu'on regrettera beaucoup.
Et puis tout récemment, début décembre, le monde du patinage artistique apprend le décès de Jean-François Ballester à l'âge de 53 ans. Entraîneur du CP La Chaux-de-Fonds, il avait atteint le Graal en février lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Il avait mené le couple Aliona Savchenko-Bruno Masso au titre. La présidente de la Fédération Suisse de Patinage, Diana Barbacci-Lévy.
Le patinage suisse perd quelqu'un d'inestimable, d'une valeur inestimable, une personnalité rayonnante. C'est un grand monsieur du patinage que nous perdons aujourd'hui. Indépendamment des qualités techniques qu'il avait, c'est cette passion qu'il a réussi à communiquer à tout le monde, pas seulement aux athlètes, mais finalement à toutes les personnes qui le fréquentent, autant des officiels d'arbitrage, des membres de fédération, d'autres coachs aussi, parce qu'ils ne retenaient pas l'information, ils transmettaient tout, ils transmettaient ce qu'ils savaient, et puis avant tout, oui, sa passion.
Des larmes donc, mais aussi des sourires tout au long de cette année sportive. Un grand merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez tous les numéros de Cap Sport en podcast sur notre site internet. Le retour de notre émission sportive, ce sera pour le 11 janvier après les fêtes. D'ici là, bon week-end, de très belles fêtes à vous tous et à l'année prochaine.
Cap Sport.